Le journal présenté par Lise Verbeck.
Bonsoir. Israël critiqué pour sa gestion de la guerre de Gaza en 2014. Un rapport officiel démontre que le Premier ministre et ses généraux de l'époque ont sous-estimé la menace des tunnels du Hamas. On détaillera ce rapport et nous en parlerons avec notre invité, le politologue israélien Emmanuel Navon. Il ne pourra pas s'exprimer en un tweet. Cette fois, Donald Trump va devoir longuement préciser sa politique, son budget et sa mise en œuvre devant le Congrès. Le président qui a lui-même reconnu qu'en matière de communication, il n'était pas le meilleur. Marine Le Pen pourrait perdre son immunité parlementaire. Une commission du Parlement européen en a du moins ouvert la voie aujourd'hui. Une immunité demandée par la justice française dans le cadre d'une enquête sur la diffusion de photos du groupe État islamique sur Twitter par la présidente du FN. Un rapport très attendu en Israël vient d'être publié. Il est rédigé par le contrôleur général. 200 pages à charge pour une partie du gouvernement et de l'encadrement militaire à l'époque de l'opération Bordure protectrice de l'armée israélienne en juillet et août 2014, la guerre de Gaza. Le rapport officiel affirme que l'armée israélienne n'était pas préparée à ce conflit. Elle n'a pas su notamment gérer la menace des tunnels de guerre aménagés par le Hamas. 68 soldats israéliens sont morts lors de cette opération. La guerre de Gaza qui a fait plus de 2200 morts côté palestinien. Et ce rapport, Étienne Monin, vise notamment le Premier ministre israélien.
Même si les implications politiques de ce rapport sont encore difficiles à évaluer, il jure déjà sur le costume de Monsieur Sécurité que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a endossé depuis sa réélection. L'enquête du contrôleur d'État pointe principalement un fonctionnement défaillant du cabinet de sécurité, un manque de préparation de l'armée et un but de guerre, la destruction des tunnels à moitié réussi. Le cabinet d'abord, d'après le rapport, le Premier ministre, le ministre de la Défense et l'appareil militaire et sécuritaires ont fait de la rétention d'informations. Le cabinet ne s'est pas penché sur la situation humanitaire catastrophique dans l'enclave avant la guerre. Il a négligé la réponse diplomatique qui aurait peut-être permis d'éviter l'escalade. L'armée ensuite, pour le contrôleur d'État, elle n'était pas équipée pour faire face au danger des tunnels du Hamas lors de l'opération terrestre et l'armée de l'air n'avait pas assez d'informations pour agir efficacement. Les tunnels, enfin, on parle des tunnels offensifs dirigés vers Israël qui ont justifié la guerre après son déclenchement. Le renseignement ne s'y intéressait que tardivement. La défense a tardé avant de faire part de la menace réelle au cabinet de sécurité et seulement la moitié de ces tunnels ont été détruits.
Étienne Monin, notre correspondant à Jérusalem. Ce rapport, on en parle avec notre invité. Bonsoir Emmanuel Navon.
Bonsoir.
Vous êtes politologue israélien. Ce rapport vise donc le Premier ministre et ses généraux de l'époque. Quel impact peut-il avoir sur Benjamin Netanyahou ?
Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, le rapport est très critique à l'égard du Premier ministre, en particulier sur le fait qu'il n'a pas accepté de considérer certaines alternatives à l'opération telle qu'elle lui avait été proposée tant par les généraux que par son cabinet, par son gouvernement, mais également qu'il n'a pas révélé toutes les informations à son cabinet, qu'il a pris la plupart des décisions en cercle fermé entre lui et le ministre de la Défense, contrairement aux règles acceptées en Israël pour les prises de décision dans une démocratie parlementaire et un gouvernement de coalition. Et par conséquent, les conclusions de ce rapport vont affaiblir beaucoup politiquement le Premier ministre, en particulier l'image qu'il essaie de se donner depuis plusieurs années, à savoir la personnalité politique la plus crédible sur les questions sécuritaires. Son image sur ce plan est extrêmement affectée. Et puis, si, comme l'exige une partie de l'opposition, une commission d'enquête est établie pour le mettre en cause, cela risquerait de l'acculer à la démission.
Sachant qu'il est déjà affaibli par des enquêtes judiciaires le visant pour des faits présumés de corruption et également sous pression de la droite de son gouvernement.
Effectivement, et cela rappelle d'une certaine manière la situation politique de l'un de ses successeurs, Ehud Olmert, qui, après la guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban en 2006, avait également essuyé un rapport extrêmement critique de sa conduite pendant la guerre, ce qui l'avait beaucoup affaibli politiquement et dans l'opinion publique. À cela s'était ajouté par la suite une mise en examen des enquêtes justement de corruption et une mise en examen d'Ehud Olmert, qui avait donc été acculé à la démission, bien que la loi en Israël n'exige pas d'un Premier ministre de démissionner en cas de mise en examen, mais justement du fait de la critique virulente de la commission Vinograd à l'époque sur la deuxième guerre du Liban et de l'affaiblissement politique d'Ehud Olmert, eh bien, ses partenaires coalitionnels avaient exigé sa démission. Donc cela rappelle d'une certaine manière effectivement la situation actuelle de Benjamin Netanyahu.
Et quelle sera la suite pour Benjamin Netanyahu? Est-ce qu'il devra rendre des comptes comme le demande l'opposition?
Alors si l'opposition obtient, comme je l'ai dit, l'établissement d'une commission d'enquête parlementaire, dans ce cas, la réponse serait oui. Mais beaucoup dépendra effectivement d'abord de la réaction de l'opinion en Israël. Quelle sera la réaction de l'opinion à ce rapport? Est-ce que l'opinion sera blasée ou bien est-ce qu'il y aura un effet de protestation contre Netanyahou avec des manifestations, avec une exigence de démissionner? Je dirais que beaucoup dépendra de l'état de l'opinion publique, également de la réaction de l'opposition.
On ne sait pas, oui, justement, comment réagir à l'opinion publique, parce que ce rapport dit que l'armée israélienne était mal préparée à la menace des tunnels de Gaza aménagés par le Hamas. 68 soldats israéliens avaient été tués à l'époque.
Tout à fait. Et là, c'est un sujet extrêmement sensible, parce que l'opinion publique en Israël est prête à faire des sacrifices, mais pas pour rien. Et là, lorsqu'on sait que, soit, comme vous l'avez dit, 68 soldats ont perdu leur vie, ont trouvé la mort dans cette guerre, une guerre qui, je vous rappelle, également a duré 50 jours, ce qui est une période extrêmement longue, sans précédent, qui révèle théoriquement d'un manque de préparation et d'une conduite complètement, je dirais, non professionnelle de cette guerre. Et je crois que là, avec la publication de ce rapport, beaucoup d'Israéliens vont exiger des explications du Premier ministre, mais tout dépendra encore une fois du niveau de protestation qui risque ou qui risque de ne pas se développer à la suite de la publication de ce rapport.
L'armée israélienne est également directement mise en cause dans le rapport, notamment l'ancien chef d'état-major. Comment ont-ils réagi à ce qu'ils se sont expliqués?
Alors pour l'instant, l'ancien chef d'état-major et surtout l'ancien ministre de la Défense, Moshe Yaalon, lui essaie absolument de se justifier. Je vous rappelle que Moshe Yaalon avait été démis de ses fonctions il y a un peu moins d'un an et est remplacé par Avigdor Lieberman. Il est depuis devenu un critique acerbe de Benjamin Netanyahou et on sait qu'il compte se lancer en politique, revenir en politique et se présenter lui-même à la présidence du Conseil. Et il ne fait aucun doute que ce rapport le remet également lui en cause et risque d'affecter ses chances politiques de se faire élire aux prochaines élections. C'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il peut pour essayer de se justifier et essayer de convaincre l'opinion publique qu'il a fait de son mieux, qu'il s'est conduit comme il le fallait. Mais il ne fait aucun doute que le rapport de l'Ombudsman, du contrôleur de l'État, met en doute très sérieusement la version de Moshe Yaalon, l'ancien donc ministre de la Défense.
Merci Emmanuel Navon d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes politologue à Tel Aviv. Dans quelques heures, Donald Trump fera son grand discours devant l'ensemble du Congrès, les élus du Sénat et de la Chambre des représentants. Dans ce grand oral, où il ne sera pas forcément très à l'aise, lui qui fustige l'establishment de Washington, il va préciser ses priorités. Le président américain a déjà annoncé qu'il comptait augmenter de près de 10% le budget de la défense. Il sera notamment très écouté sur ce point, Frédéric Carbone.
En annonçant ses choix budgétaires avant même son discours, Donald Trump relance les interrogations des élus républicains. Priorité à la défense, tout le monde est d'accord, mais ensuite, comment compenser les 54 milliards de dépenses supplémentaires? Le président américain exclut par exemple a priori de toucher aux programmes sociaux, promesses de campagne, or c'est pour de nombreux républicains le domaine dans lequel il faut absolument faire des économies, entre des électeurs qui attendent le respect des engagements et un congrès en guerre contre le déficit budgétaire, Donald Trump sait qu'il y a un besoin d'éclaircissement et se travail commence la nuit prochaine. Je pense qu'on n'a pas bien expliqué ce qu'on faisait aux Américains. Je mérite un A pour ma politique, mais je me donne un C pour la communication. Peut-être que ça va changer avec ce discours. Un discours que l'entourage de Donald Trump annonce comme positif, une sorte de message à la Ronald Reagan, mais visiblement, le président américain n'a pas l'intention de renoncer à sa vision d'une Amérique en proie à toutes les menaces extérieures. Parmi ses invités dans les tribunes du Congrès, il y aura en effet les familles de deux jeunes gens tués par des immigrants clandestins. Les démocrates ont eux invité des chercheurs iraniens, symbole d'une intégration réussie et d'une immigration bénéfique.
Frédéric Carbone à Washington. Nouvel échec de Bruxelles sur les perturbateurs endocriniens. La Commission européenne, pour la troisième fois, a renoncé à présenter au vote ses critères d'identification, faute de majorité. Certains pays trouvent la définition proposée par la Commission européenne trop restrictive et pas assez protectrice des citoyens. Les négociations vont donc se poursuivre. François Hollande perturbé en plein discours sur l'inauguration de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Lors de la cérémonie en Charente, un gendarme a tiré avec son arme accidentellement un peu à l'écart du chef de l'État. Celui-ci a interrompu son discours quelques secondes en attendant le coup de feu. Deux personnes ont été légèrement blessées. Une enquête a été ouverte. Les manifestations contre les violences policières continuent à Paris et en région parisienne devant les lycées après l'affaire Théo. 26 personnes ont été interpellées aujourd'hui après des incidents entre les lycéens et la police. Une proviseure a été légèrement blessée et trois policiers. Des violences condamnées par Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale. 15 établissements ont été bloqués aujourd'hui. Le salon de l'agriculture à Paris, passage obligé pour les politiques, d'autant plus cette année pour les candidats à la présidentielle. Marine Le Pen y était toute la journée, confortée dans les sondages avec notamment le Cevipof qui crédite le vote des agriculteurs à 35% pour la candidate du Front National. Elle a appelé à franciser les aides aux agriculteurs en fustigeant la politique agricole commune, la PAC, qui est un échec selon elle. Marine Le Pen qui pourrait bien voir son immunité parlementaire levée dans une affaire de diffusion d'images violentes sur Twitter. La Commission des affaires juridiques du Parlement européen s'est prononcée en faveur de cette levée d'immunité réclamée par la justice française. Tous les eurodéputés doivent confirmer ou non cet avis jeudi. Les précisions de Laxmi Lota.
Marine Le Pen verrait son immunité levée, mais uniquement dans le cadre d'une enquête du parquet de Nanterre pour diffusion d'images violentes. L'eurodéputé avait en effet diffusé sur Twitter en décembre 2015 des photos du groupe État islamique. Parmi elles, celle du journaliste américain décapité James Foley. Il s'agissait de montrer l'horreur de l'islamisme, a expliqué le vice-président du Front National, Florian Philippot. Je ne savais pas que c'était une photo de James Foley, s'était défendue Marine Le Pen avant de retirer l'image. Cette possible levée d'immunité parlementaire ne concerne donc pas l'affaire des emplois fictifs présumés au Parlement européen, précise une porte-parole de l'instance. La candidate à la présidentielle risque 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Mais le Parlement européen doit d'abord voter pour confirmer ou non la levée de son immunité ce jeudi en session plénière à Bruxelles. Généralement, les eurodéputés suivent les recommandations de la Commission des affaires juridiques, indique la porte-parole. Marine Le Pen a réagi face à l'éventuelle levée de son immunité. Ceci démontrerait que les élites sont prêtes à piétiner l'état de droit quand il s'agit de mettre hors course l'un de leurs adversaires politiques. Cela ne marchera pas, a-t-elle déclaré.
Laxmi Lota à Bruxelles pour France Culture. Le projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure verra-t-il le jour? En tout cas, il est pour le moment gelé par une décision de justice. Le tribunal administratif de Nancy a annulé aujourd'hui la cession d'une forêt, le bois Le Juc, à l'ANDRA, l'Agence nationale des déchets radioactifs. Le bois est sur la commune de Mandres-en-Barrois et la délibération du conseil municipal n'a pas été jugée valide. Ce terrain est le cœur du projet Cigéo d'enfouissement de déchets radioactifs. C'est là notamment que l'ANDRA veut construire les puits d'aération du site. Pour les opposants au projet, c'est donc une petite victoire. Victoire Magali Fichter.
Jacques Guimain fait partie des habitants qui avaient déposé le recours devant le tribunal. Pour lui, l'important, c'était que le bois Le Jus, le bois de son enfance, revienne à la commune.
On allait se promener, mon père allait faire le bois, tous les personnes âgées du village l'ont entretenu. Puis là, ils échangent un bois et puis ils coupent tout, c'est la catastrophe quand même. Là, c'est le soulagement.
Le soulagement et le sentiment d'avoir gagné une bataille, mais le combat est loin d'être terminé. Le conseil municipal de Mandres-en-Barrois a désormais 4 mois pour voter à nouveau la délibération. Mais si les élus décident cette fois-ci de dire non à l'ANDRA, cela pourrait remettre en cause tout le projet Cigéo. C'est en tout cas l'avis de Charlotte Mijon du réseau Sortir du Nucléaire.
Le bois Le Jus, c'est là où l'ANDRA prévoyait d'implanter les puits d'aération et d'accès aux galeries. Si l'ANDRA ne peut plus monter sur le bois Le Jus, ça veut dire qu'elle doit revoir toute la conception de Cigéo.
Mais pour l'ANDRA, cette décision du tribunal administratif ne signifie ni l'arrêt ni même le blocage du projet. David Mazoyer est le directeur du centre Meuse et Haute-Marne.
La parcelle dont il est question, c'est une partie du projet, mais à côté de ça, le projet s'étend sur plus de 600 hectares et puis l'essentiel se passe sous terre. Donc je dirais le gros des études, l'ensemble des investigations qu'on doit mener se poursuit.
L'ANDRA souligne qu'il ne s'agit que d'un vice de procédure et compte bien sur le fait que le conseil municipal vote à nouveau la cession du bois Le Jus. Mais les opposants sont persuadés, désormais la donne peut changer.
Reportage de Magali Fichter. Le temps, demain, des nuages et de la pluie sur une grande partie de la France. Seul le quart sud-est sera épargné. Les températures maximales, 8 à 13 degrés sur la moitié nord, l'Auvergne et Rhône-Alpes. Il fera de 12 à 18 degrés dans le sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Nathalie Lopez.